Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous fêtons aujourd'hui la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, mais c'est la liturgie du dimanche, le sixième dimanche après la Pentecôte, qui prime sur cette fête. Cependant, pour rappeler l'importance de la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, le dernier évangile à la fin de la messe sera l'évangile de la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Donc je voudrais surtout vous parler des deux textes magnifiques que l'Église propose à notre méditation pour ce sixième dimanche après la Pentecôte. Il y a une expression qui est certainement une des plus belles expressions du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. La particularité du Sacré-Cœur, c'est évidemment l'amour. Notre Seigneur Jésus-Christ aime le pécheur repentant. Je précise qu'il n'aime pas le pécheur, il aime le pécheur repentant. Il y a le pécheur qui regrette d'avoir offensé. Mais il est évident que si le pécheur ne regrette pas ses offenses et ne change pas de vie, le bon Dieu ne va plus pouvoir exercer sa miséricorde. Eh bien, il y a dans cet évangile magnifique qu'on trouve en Saint Marc au chapitre 8 un exemple extraordinaire. En ce temps-là, donc, il y avait une grande foule avec Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, et il n'avait plus de quoi manger. Il y avait, dit l'évangile, 4000 personnes. Comme en général, les évangélistes ne comptent pas exactement les femmes et les enfants. Souvent, le texte dit 4000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Donc, en rajoutant les femmes et les enfants, ça veut dire qu'il y avait peut-être devant notre Seigneur Jésus-Christ peut-être 10 000 personnes. Une foule très, très nombreuse, très importante. Et quel est le texte, la phrase que notre Seigneur Jésus-Christ va utiliser ? J'ai pitié de cette foule, miséreor super turbam. C'est là où on voit la manifestation de la miséricorde infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. Miséreor super turbam, j'ai pitié de cette foule. Il a 10 000 personnes devant lui, il a pitié de chacun, chaque personne en particulier. Nous pensons souvent à la justice de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, il faut en parler aussi. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ est bien plus grand quand il exerce sa miséricorde que quand il exerce sa justice. Il est plus à craindre quand il exerce sa justice que quand il exerce sa miséricorde, c'est vrai. Mais en soi, il est plus grand, il manifeste davantage encore sa miséricorde, sa grandeur quand il exerce sa miséricorde que quand il exerce sa justice. Qu'est-ce qui est plus grand ? Qu'est-ce qui manifeste plus la grandeur de Dieu ? De châtier le pécheur repentant, le pécheur non repentant, pardon, ou de pardonner aux pécheurs repentants. Il est évident qu'il est bien plus grand, bien plus difficile, surtout pour nous, de pardonner aux pécheurs repentants et que de châtier le pécheur qui refuse de se convertir, qui refuse de changer de vie. Et notre Seigneur Jésus-Christ est d'autant plus grand dans sa miséricorde, je vous l'ai déjà dit souvent, mais il faut répéter ces choses-là pour qu'elles rentrent bien dans nos cœurs, que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ pardonne aux pécheurs repentants, il ne fait pas simplement que pardonner en même temps. Il oublie les péchés passés. Alors voilà ce que dit notre Seigneur, j'ai pitié de cette foule, car voilà 3 jours déjà qu'ils ne me quittent pas et qu'ils n'ont pas de quoi manger. Et si je les renvoie à jeun dans leur maison, ils tomberont de défaillance en chemin, car certains d'entre eux sont venus de loin. Il y a dans cette phrase beaucoup de choses, beaucoup de points à méditer. Le premier, je viens d'en parler, j'ai pitié de cette foule, la miséricorde du bon Dieu. La miséricorde, bien sûr, d'abord pour les âmes, puis ensuite pour les corps. Et là, il y a une chose très importante, un détail. Lorsque notre Seigneur dit « j'ai pitié de cette foule », on pourrait croire qu'il a pitié d'abord des âmes, de ces gens-là. Et en fait, l'évangéliste dit, il y avait une grande foule avec Jésus, ils n'avaient pas de quoi manger. Et notre Seigneur Jésus-Christ a placé les disciples et leur dit, j'ai pitié de cette foule car voilà 3 jours déjà qu'ils ne me quittent pas, ils n'ont pas de quoi manger. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a pitié de cette foule, d'abord parce qu'ils n'ont rien à manger. On pourrait croire que notre Seigneur Jésus-Christ se préoccupe d'abord du spirituel, avant de se préoccuper du matériel, du temporel. Eh bien là, c'est l'inverse. Il parle d'abord du temporel pour nous montrer que s'il s'occupe du temporel, qui est beaucoup moins important que le spirituel, eh bien, à plus forte raison, bien sûr, il va s'occuper de nos âmes. Si notre Seigneur Jésus-Christ protège nos corps et tient compte de nos corps, eh bien, il est évident qu'il va encore bien plus tenir compte de nos âmes. Rappelez-vous ces phrases magnifiques de l'Évangile où il explique que le bon Dieu tient compte des lys des champs. Il rend encore plus belle la corolle des lys des champs. Et s'il n'y a pas un oiseau qui vole dans le ciel, s'il n'y a pas un cheveu de nos têtes qui tombe, sans la permission du bon Dieu, eh bien, il est évident que, à plus forte raison, notre Seigneur Jésus-Christ va se préoccuper de nos âmes. Il est évident qu'il faut partir de ce texte pratique, matérielle, et monter au niveau spirituel. Il y a un sens, évidemment, un sens spirituel derrière qui est évident. Quand notre Seigneur Jésus-Christ dit « J'ai pitié de cette foule », là, il s'adresse au corps. « J'ai pitié de cette foule parce qu'ils n'ont rien mangé, qu'ils risquent de défaillir en chemin, précisément parce qu'ils n'ont rien mangé. » Eh bien, cette condescendance de notre Seigneur Jésus-Christ, cette grandeur d'âme de notre Seigneur Jésus-Christ à l'égard des corps, manifeste évidemment une grandeur d'âme encore plus grande, encore plus belle, encore plus merveilleuse à l'égard des âmes. Notre Seigneur Jésus-Christ va nous dire « Je m'occupe de vos corps ». Vous voyez, je m'occupe de vos corps. Ah, vous pensez bien que je m'occupe encore plus de vos âmes. Donc derrière ce corps, ces corps, il y a toutes les âmes qui se cachent. Et notre Seigneur Jésus-Christ, s'il se préoccupe, il va se préoccuper là en multipliant les pains, il va se préoccuper de donner une nourriture matérielle à toutes ces âmes, eh bien, il est évident que cette nourriture matérielle représente une nourriture beaucoup plus importante que la nourriture spirituelle. Mais il passe de choses pratiques, c'est une parabole en quelque sorte, il passe d'une chose pratique, le corps, la nourriture matérielle, pour nous montrer qu'il tient compte de ces choses-là, qu'il nous aide aussi dans ces choses-là, pour nous aider à remonter à quelque chose de bien plus grand, à savoir la nourriture spirituelle et l'état de l'âme. Donc j'ai pitié de cette foule, ça veut aussi dire, et avant tout ça veut dire, j'ai pitié des âmes de ces personnes. De même qu'un corps qui reste sans nourriture physique, sans nourriture matérielle, va vite dépérir, en fait va mourir. De la même façon, une nourriture spirituelle est nécessaire à l'âme. Et si l'âme reste pendant une longue période de temps sans cette nourriture spirituelle, eh bien à ce moment-là, évidemment, l'âme va dépérir. Et qu'est-ce qui est plus important, le corps ou l'âme? Rappelons-nous que notre Seigneur Jésus-Christ, strictement parlant, n'est pas mort pour les corps, il est mort pour les âmes. Alors, essayons de voir un petit peu ce qui est représenté par cette nourriture spirituelle, donc, qui est représentée par cette nourriture purement matérielle. Pour bien nous faire comprendre qu'il s'agit de la nourriture spirituelle, il y a un détail dans la deuxième partie de l'Évangile du jour, donc en Saint Marc chapitre 8. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ leur demande combien les disciples ont-ils de pain, combien les apôtres ont-ils de pain. Ils répondent 7. Alors il leur donna à la foule de s'asseoir par terre. Et prenant les 7 pains, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer et distribuer à la foule. Il y avait aussi encore quelques petits poissons. Il les bénit aussi et les fit distribuer. Et notez que non seulement il y a 7 pains à partir desquels notre Seigneur Jésus-Christ va faire ce miracle extraordinaire de la multiplication des pains, mais que après que tout le monde fut rassasié, quand tout le monde eut terminé de manger, on en emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui étaient restés, pour qu'il n'y ait pas de gaspillage. Pourquoi ce chiffre 7? Il y a 7 pains au début, 7 corbeilles à la fin. Pourquoi? Il est évident que ce chiffre 7 représente quelque chose de bien précis. Le chiffre 7 représente le nombre des sacrements. Et c'est par les sacrements que nous recevons cette nourriture spirituelle. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est parti de 7 pains, il ramasse à la fin, il fait ramasser 7 corbeilles pour bien nous montrer que cette nourriture matérielle, ce pain qu'il donne à ces gens qui n'ont pas eu à manger depuis longtemps, qui sont fatigués, que ce pain matériel représente quelque chose de bien plus grand, à savoir le pain spirituel, c'est-à-dire la nourriture spirituelle de nos âmes qui est donnée par les sacrements. Certes, le bon Dieu est au-dessus des sacrements, on peut même passer à nourrir directement une âme sans les sacrements, mais normalement, le bon Dieu va utiliser les sacrements pour nous donner la grâce. Donc ces 7 sacrements représentent 7 portes d'entrée par lesquelles le bon Dieu peut rentrer dans nos âmes. Surtout, évidemment, pour chacun d'entre nous, le sacrement de pénitence et le sacrement de la Sainte Eucharistie. Et donc il nous dit, veillez à utiliser ces sacrements, veillez à vous confesser souvent, veillez à communier souvent, afin justement d'avoir cette force surnaturelle qui va permettre à votre âme de continuer le combat, malgré toutes les difficultés qui se rencontrent sur notre chemin. Et comme ces choses sont importantes, sans la confession, sans la communion, il est pratiquement impossible d'arriver à tenir le coup dans le monde moderne. Et même déjà, parfois, avec ces sacrements-là, c'est difficile. Et donc, il nous faut, nous aussi, savoir nous agenouiller devant notre Seigneur Jésus-Christ et entendre cette voix de notre Seigneur, j'ai pitié de votre âme. Si je vous renvoie à jeun maintenant dans votre maison, vous tomberez de défaillance en chemin. Alors venez et profitez de cette nourriture spirituelle que je vous donne. Et notre Seigneur Jésus-Christ va nous dire, après que nous ayons accusé tous nos péchés avec la contrition, avec le ferme propos de ne plus recommencer, avec l'accusation complète, avec la réparation, notre Seigneur Jésus-Christ va nous dire, je vous pardonne tous vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez en paix maintenant. Et ces 7 corbeilles de pain qui sont récupérées à la fin du repas représentent justement le fait qu'il ne faut jamais gaspiller les grâces du bon Dieu. De même qu'il ne faut pas gaspiller le pain matériel, il faut le donner aux pauvres. De la même façon, il ne faut pas gaspiller les grâces spirituelles. Méfions-nous de la grâce qui passe une fois et qui risque de ne pas repasser. Donc soyons extrêmement prudents dans ce domaine. Donc c'est cette nourriture spirituelle dont parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour rendre des forces spirituelles, c'est d'abord évidemment la grâce sacramentelle donnée pour chaque sacrement. Pour chaque sacrement, les sacrements vont provoquer une augmentation de la grâce actuelle, de la grâce sanctifiante. Ou si cette grâce sanctifiante a été détruite par le péché mortel, par la confession, la grâce sanctifiante va renaître. Mais si nous sommes en état de grâce quand nous communions, eh bien évidemment, si nous sommes en état de grâce en communion, eh bien nous allons augmenter en nous l'état de grâce, le degré de charité que nous avons en nous. Et donc cette nourriture spirituelle, c'est on pourrait l'appeler la médecine des âmes. Ce n'est pas simplement une nourriture, c'est aussi un médicament. C'est pour ça qu'il faut communier souvent. Il faut communier souvent, pas simplement en réparation de nos péchés, mais aussi communier souvent pour pouvoir être un instrument digne des grâces que le bon Dieu veut nous donner à chacun d'entre nous, jour après jour. Cette nourriture spirituelle ne se cantonne pas aux 7 sacrements. Attention, certes, il faut les 7 sacrements, c'est absolument évident. Mais en plus de ces 7 sacrements, il faut aussi alimenter cette grâce sanctifiante par d'autres choses. Il faut alimenter la grâce sanctifiante par la prière, évidemment, par l'oraison, pour ceux qui savent faire oraison, et ceux qui ne savent pas, ben, qu'ils apprennent rapidement, le plus rapidement possible, surtout par l'intermédiaire des exercices Saint-Ignace. Il ne faut pas simplement la prière de l'oraison, il faut aussi cette dévotion à la Très Sainte Vierge Marie. On ne peut pas utiliser les grâces du bon Dieu sans passer par la Très Sainte Vierge Marie, puisqu'elle est médiatrice de toutes les grâces. Donc il faut la vie de prière, il faut aussi la vie pénitentielle, parce que là, très souvent, le bon Dieu donne ses grâces à condition que nous préparions le chemin pour les recevoir. Beaucoup de grâces sont conditionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont données aux pécheurs repentants à condition qu'ils fassent pénitence avant de les obtenir. Et donc, il faut utiliser les sacrements, il faut prier, il faut faire pénitence, et il faut aussi étudier. Étudions notre catéchisme, aimons notre catéchisme. En quelque sorte, méditons notre catéchisme pour pouvoir aimer tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ veut nous donner. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, une fois qu'il aura nettoyé notre âme, il va nous faire asseoir sur l'herbe, et là, il va nous distribuer le pain et le poisson. Et ce pain et ces poissons, bien sûr, représentent ici le mystère de la Sainte Eucharistie, ce sacrement merveilleux qui contient le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et il leur donne à manger avant de les renvoyer chez eux, parce qu'ils vont avoir un long chemin à parcourir pour certains d'entre eux, parce que certains d'entre eux sont venus de loin, dit l'Évangile. Donc ça va être un chemin à parcourir. C'est pour ça que cette communion, cette sainte communion, que l'on donne aux gens qui ont un long chemin à faire, un chemin dangereux, c'est ce qu'on appelle le viatique. Pourquoi le viatique? Parce que via, V-I-A en latin, c'est le chemin. Donc la Sainte Eucharistie, c'est le viatique de la vie éternelle, c'est-à-dire les forces divines qui nous sont données à nous qui devons faire un long chemin pour aller au ciel. Certes, strictement parlant, le viatique n'est donné qu'à des gens qui sont mourants. Mais déjà, la Sainte Eucharistie, même lorsque nous ne sommes pas mourants, nous sommes tous un petit peu mourants sur le plan spirituel à cause des dangers du péché mortel. Comme nous sommes tous un petit peu mourants spirituellement parlant, nous avons tous besoin de ce viatique qui est la Sainte Eucharistie. Donc la Sainte Eucharistie, même pour quelqu'un qui n'est pas en train de mourir, est un viatique, dans le sens que c'est quelque chose qui va nous aider in via sur le chemin qui mène au ciel. Alors, il est évident que cette préparation à ce long chemin, le chemin est long, hein, parce qu'il se terminera au moment de l'entrée au ciel, eh bien, ce chemin est très long et seuls pourront le prendre jusqu'au bout, ceux qui sont morts en état de grâce. Ce chemin est long à condition que nous ayons pris soin d'éliminer en nous le péché. Hein. C'est ce qu'il dit dans l'épître de Saint Paul aux Romains, hein, au chapitre 6. Il est dit « Celui qui est mort, il est justifié par le péché. » Ça veut dire quoi ? Celui qui est mort est justifié du péché. Pardon. Celui qui est mort est justifié du péché, excusez-moi. Il est justifié du péché. Qu'est-ce que ça veut dire ? Celui qui est mort au péché peut à ce moment-là utiliser les grâces dont il a besoin pour aller au ciel. Alors, il faut bien comprendre ça. Notre Seigneur Jésus-Christ va nous dire, en Saint Paul aux Romains, « Notre vieil homme a été crucifié avec le Christ, afin que le corps du péché soit détruit, que désormais nous ne soyons plus esclaves du péché. » Pourquoi les sacrements? Pourquoi le pain consubstantiel? Ce pain de la Sainte Eucharistie, ce pain spirituel, tout simplement pour détruire en nous le foyer de péché, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, nous ne soyons plus esclaves du monde, mais que nous devions des amis de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est dit en Saint Paul, donc notre vieil homme a été crucifié avec le Christ. Il faut achever ce qui manque à la passion du Christ. Le vieil homme, c'est quoi? Le vieil homme, c'est le vieil homme avant notre conversion, c'est le vieil homme de péché. C'est ce que nous laissons derrière nous à chaque fois que nous confessons. Chaque fois que nous confessons, à chaque fois que nous agenouillons devant notre Seigneur Jésus-Christ en disant avec foi, pardonnez-moi à mon Père parce que j'ai péché, que nous accusons nos péchés avec beaucoup de charité, eh bien nous allons justement nous préparer à ce long chemin et participer à ce moment-là aux souffrances de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ détruit le péché par la crucifixion du Vendredi Saint, et c'est par cette passion que le vieil homme en nous est détruit. Et donc, Saint Paul insiste donc que notre vieil homme a été crucifié avec notre Christ afin que le corps du péché soit détruit, que nous ne soyons plus esclaves du péché, mais au contraire, amis de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous appelle plus mes esclaves, je vous appelle mes amis. Que si nous sommes morts avec le Christ, croyons que pareillement nous vivrons avec le Christ, sachant que le Christ est ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus et que la mort n'aura plus d'empire sur lui. Car en tant qu'il est mort pour les péchés, il est mort une fois pour toutes, mais en tant qu'il vit, il vit pour Dieu. Vous donc aussi, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu notre Seigneur Jésus-Christ. Mort au péché, c'est la confession. Vivant pour Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la Sainte Eucharistie. On voit très bien que la confession amène à la Sainte Eucharistie. Alors, mes bien chers frères, il faut vraiment demander toutes ces grâces à notre Seigneur Jésus-Christ pour justement nous nourrir de cette nourriture spirituelle qui nous est donnée par la confession d'abord, puis ensuite par la Sainte Eucharistie, et par le sacrement de la messe. C'est ce que dit l'oraison d'aujourd'hui. Dieu des vertus, unique auteur de tout vrai bien, mettez en nos cœurs l'amour de votre nom et développez en nous l'esprit de religion nourrissante. Ainsi, ce qui est bon et gardant pour une piété, par une piété et vigilance que vous avez mise et nourrie. Ce qu'il a mis, gardant par une piété et vigilance, pardon, ce que vous y avez mis et nourri. Qu'est-ce qu'il a nourri? Il a nourri les âmes. Comment a-t-il nourri nos âmes? Par le sang rédempteur. C'est par ce sang qu'il a répondu sur la croix le vendredi saint. Alors, mes bien chers frères, passons par celle qui est l'intermédiaire de toutes ces grâces, de ce sang divin, celle qui est intermédiaire de toutes ces grâces, c'est Notre-Dame. Demandons à notre Sainte Vierge Marie, demandons-lui de nous donner les grâces, de ne pas nous décourager malgré les épreuves, malgré les chutes, malgré les rechutes. Rappelez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ est tombé 3 fois pendant le chemin de croix, c'est pas pour rien, c'est bien pour nous appeler, apprendre à nous relever après la rechute, après la rechute, même si cela arrive souvent, il faut continuer de regarder vers le ciel et voir notre Sainte Vierge Marie qui, de ses bras grands ouverts, nous attend, nous prépare, nous aide à monter vers le bon Dieu pour qu'un jour nous puissions tous ensemble être reçus comme fils adoptif de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.